L'année 1948 a été une année chargée d'événements significatifs et très importants pour l'humanité en plein milieu du XXe siècle. Je ne veux pas ce matin reprendre tous les événements qui se sont déroulés durant cette année, si ce n'est souligner l'un d'entre eux sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée le 10 décembre 1948, c'est-à-dire il y a tout juste 60 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée à Paris le 10 décembre 1948 au Palais Chaillot. Et cette déclaration a été préparée par les représentants de 9 pays, qui sont les États-Unis, la France, le Liban, la Chine, le Chili, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. C'est une déclaration importante, une démarche qui représente un pas en avant extrêmement important pour le monde à ce moment-là. À la même époque, au même moment, en fait la même année, le docteur Jean Nussbaum a publié pour la première fois la revue Conscience et Liberté en français. Dans le dernier semestre de l'année 1948, a paru le premier numéro de Conscience et Liberté, qui est un journal consacré à la défense de la liberté religieuse et des droits religieux. Maintenant, si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous allez trouver 30 articles, mis à part l'introduction, 30 articles qui vont toucher à la dignité et à la liberté de l'homme dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine du travail, dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine religieux et dans le domaine civique. La Déclaration universelle des droits de l'homme représente vraiment une avancée importante dans la reconnaissance des droits des individus dans les domaines mentionnés par cette déclaration. L'Église chrétienne, et en particulier l'Église adventiste, s'est investie largement aussi dans la promotion de ces valeurs durant le temps, que ce soit par les actions humanitaires, par le service communautaire, que ce soit par ses publications ou par ses prises de position dans le domaine de l'éthique. L'Église adventiste a voulu faire aussi la promotion de ces valeurs importantes pour garder l'équilibre, pour garder la paix dans l'humanité. Et je crois que nous pouvons être particulièrement reconnaissants pour cette génération passée, cette génération précédente, d'avoir lutté pour pouvoir établir cette charte mondiale des droits de l'homme. Nous bénéficions aujourd'hui d'ailleurs de cette charte et nous sommes peut-être tentés de nombreuses années après, 60 ans après, de prendre tout cela pour acquis, de prendre cela comme naturel, alors qu'en réalité nous oublions peut-être que dans le passé, ces valeurs n'ont pas été appliquées, que l'humanité a énormément souffert du manque de ces valeurs et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a bien des endroits dans le monde où même si l'on a accepté officiellement ces valeurs et ces droits de l'homme, ils ne sont pas nécessairement mis en application et les difficultés sont parfois nombreuses pour ceux qui sont confrontés à la privation de ces droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée donc en 1948, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est une charte qui a été apportée comme le résultat d'un long travail, mais qui est présenté comme un travail tout à fait laïque. Il n'y a aucun fondement religieux dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans un sens, quand on y pense, quand on regarde le moment en particulier où cette déclaration a été faite, on réalise qu'elle est en réalité une gifle magistrale appliquée au christianisme. Souvenez-vous, dans la première moitié du XXe siècle, le monde a connu deux guerres mondiales extrêmement dévastatrices. Un siècle qui avait commencé avec des rêves énormes de paix, de grandeur. Il a fallu juste un demi-siècle pour que le monde soit ravagé par deux guerres mondiales. En 1948, la Deuxième Guerre mondiale vient de s'achever et les nations chrétiennes, en fait, sont celles qui ont commencé cette guerre. Quand on y pense, cette guerre s'est développée dans des pays chrétiens et plus encore dans des pays qui avaient accepté la réforme. Ainsi, à la fin de la guerre, les humanistes du monde ont rassemblé leurs forces pour mettre en forme cette déclaration universelle des droits de l'homme, sans aucune base religieuse. Et en réalité, cette déclaration a bousculé les chrétiens parce qu'elle présente en fait un idéal chrétien que les chrétiens auraient dû non seulement proclamer, mais aussi pratiquer depuis longtemps. Finalement, cette déclaration présentée à la fin de la guerre est véritablement une gifle au christianisme, comme pour dire « Avec votre Dieu, vous n'avez rien pu faire de mieux que de faire deux guerres. Nous, sans Dieu, on va construire la paix et l'égalité et l'harmonie. » Ainsi, cette déclaration est véritablement, de la part des humanistes à la fin de la guerre, une déclaration d'échec du christianisme, à l'heure où les canons n'avaient pas encore eu le temps de rouiller après la guerre. Ainsi, le christianisme d'aujourd'hui se trouve interpellé de multiples manières par ceux qui ne sont pas des croyants. Et je crois que les croyants que nous sommes qui attendons le retour de Jésus doivent être au clair sur le rôle que Dieu veut que nous jouions dans le monde d'aujourd'hui, sur la mission qui est la nôtre aujourd'hui, non pas en fonction des termes d'une déclaration humaniste, mais surtout dans les termes qui nous ont été donnés dès le départ, par lesquels nous avons été invités à agir tout au long du temps et qui se trouvent dans la parole de Dieu. La Déclaration universelle des droits de l'homme a en réalité bousculé beaucoup de gens pour que se mette en pratique un idéal qui est l'idéal chrétien. Et cette demande, même si elle est nécessaire et réjouissante, n'est qu'une étape dans ce que le chrétien doit faire. Car le chrétien ne peut pas s'arrêter là. Il doit en réalité aller plus loin et chercher dans les Écritures ce que Dieu a donné comme indication pour que précisément son plan se mette en application dans le monde d'aujourd'hui. Si vous lisez les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous allez y trouver 62 fois le mot « droit » et vous trouverez le mot « devoir » une seule fois. Ceci est particulièrement symptomatique, cette déclaration que nous reconnaissons d'ailleurs comme étant extrêmement importante et d'une grande valeur aujourd'hui, comme étant probablement l'un des plus grands bienfaits du XXe siècle d'ailleurs, représente quand même une mentalité d'une société qui est infiniment plus consciente de ses droits que de ses devoirs. Elle est en fait issue d'une société mue par un esprit de contestation, de revendication, et qui n'est malheureusement pas l'état d'esprit que l'on trouve dans l'Évangile. Ainsi, le chrétien est invité à aller plus loin qu'une déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, l'humanisme revendique auprès des autres le respect de ses droits au nom de la dignité humaine. Le christianisme invite chacun à remplir ses devoirs les uns envers les autres, en vertu de la dignité que Dieu donne à chaque homme par Jésus-Christ. Il y a là un monde énorme de différence entre les deux. L'un réclame des autres ses droits. Il les revendique. Et cet esprit de revendication conduit souvent à des conflits. Le christianisme, au contraire, invite à remplir nos devoirs les uns envers les autres. Et en remplissant ainsi nos devoirs les uns envers les autres, il n'y a plus besoin de revendiquer nos droits parce qu'ils sont respecter et les besoins de tous sont en fait satisfaits. Il y a là deux démarches fondamentalement opposées. L'un réclame ses droits, l'autre accomplit ses devoirs. C'est là en réalité le plan de Dieu pour l'humanité. Et j'aimerais ce matin reprendre quelques exemples seulement dans les Écritures montrant à quel point Dieu insiste pour que nous adoptions son plan, sa manière d'agir, son mode d'action dans le monde et dans l'Église et parmi nous. Je prendrai simplement quelques exemples, et le premier se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est ce texte que les jeunes ne veulent plus que je lise dans les mariages aujourd'hui, parce que ce texte a été lu et relu, mal lu et abusé, mais j'aimerais le relire comme il faut avec vous aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Il est écrit ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Et un petit peu plus loin, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà ce texte que l'on ne veut plus qu'on lise dans les mariages parce que, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est démodé, vous comprenez. Mais encore une fois, le texte ne dit pas ça. Le texte dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et quand on lit la suite, mes amis, quand vous voyez ce que le Seigneur demande des maris, c'est infiniment plus grand et plus difficile à accomplir que ce qu'il demande aux épouses. Parce qu'au mari leur dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'idéal est extrêmement élevé. Sommes-nous prêts à aller jusque-là, nous, maris, pour nos femmes, comme Christ s'est livré lui-même pour elles? Vous remarquez dans ce passage qu'il n'y a pas de revendication de droit, mais il y a l'invitation à remplir nos devoirs les uns envers les autres, mutuellement. Il n'y a pas ici de contestation. Il n'y a pas ici d'action légale pour être sûr que mes droits vont être respectés par l'autre. Non, il y a l'invitation au contraire à s'intéresser à l'autre et à remplir nos devoirs à son égard par amour pour lui. Et dans cette démarche réciproque, il n'y a plus besoin de réclamer que les droits soient respectés, ils le sont et les besoins des uns et des autres sont pleinement satisfaits. À l'intérieur du mariage, c'est cette dynamique de réciprocité que l'Éternel place comme étant le secret du bonheur, le secret de la paix, le secret de la joie. Ainsi, cette notion de réciprocité est au cœur même de la manière dont Dieu veut que nous gérions les relations humaines. J'aimerais prendre un autre exemple dans l'épître à Philémon, cette petite épître qui se trouve à la fin du Nouveau Testament, l'épître de Paul à Philémon. Elle est intéressante et permettez-moi de rappeler un peu le contexte. L'apôtre Paul a fondé l'église de Colosse. Il a baptisé, entre autres, un homme riche propriétaire qui s'appelle Philémon. Cet homme avait à son service plusieurs esclaves, plusieurs serviteurs pour son entreprise. Cet homme était probablement l'un des responsables de l'église aussi. Et un jour, l'un de ses serviteurs, du nom d'Onésime, décide qu'il veut partir. Il va vraisemblablement partir en emportant la caisse avec lui, ou en tout cas une grande somme d'argent qui appartient à son propriétaire. Et il va se sauver. Il est un fuyard. Et à cause de cette fuite, il est en danger, parce qu'un esclave fuyard, c'est un être que l'on peut abattre sans scrupule. Onésime va s'enfuir et va se cacher dans la grande ville de Rome. Que va-t-il faire à Rome ? Oh, probablement ce que Jésus raconte dans la parabole du fils prodigue. Tant qu'il a de l'argent, il a des amis. Il va faire la grande vie, probablement, et puis un jour, il n'y a plus d'argent. Il sera tout seul, plus d'amis, plus rien. Et c'est probablement ce jour-là qu'il va penser au temps qu'il passait avec son maître, où il avait tout ce dont il avait besoin, malgré tout. Et il va apprendre peut-être que, dans la même ville de Rome où il est, se trouve l'apôtre Paul, celui-là même qui avait amené son maître à la conversion qu'il avait baptisé. Mais Paul est en prison. Alors il va aller voir Paul en prison. L'apôtre Paul va reconnaître cet homme, il l'a vu sans aucun doute. Il le connaît peut-être mieux qu'on pense. Et de sa prison, Paul va appeler cet homme au Seigneur Jésus-Christ. Il va inviter ce serviteur à faire la même démarche que son maître avait fait des années auparavant. Accepter Jésus comme son sauveur. La vraie richesse en réalité. Et puis, lorsqu'Onésime est lui aussi devenu un disciple de Jésus-Christ, l'apôtre Paul va lui dire un jour une parole difficile à accepter. Il va lui dire « Maintenant, Onésime, retourne chez ton maître et sers-le. » C'est véritablement suicidaire que de retourner chez son maître quand on était un esclave qui s'était enfui. Et l'apôtre Paul lui dit « Retourne chez ton maître. » Et pour aider à la situation, je vais t'envoyer avec Tychique, un de mes amis, un pasteur en réalité, et il sera porteur d'une lettre pour Philémon. Et cette lettre, nous l'avons, c'est l'épître de Paul à Philémon. Ainsi, c'est là le billet que l'apôtre Paul va écrire pour permettre à Onésime de retourner chez son maître et de le servir à nouveau. Et j'aimerais que nous lisions simplement quelques versets. Verset 10, par exemple. L'apôtre Paul s'adresse ici au maître et lui dit, verset 10, Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Ici, l'apôtre Paul joue sur les mots parce que Onésime veut dire utile. Il fait ici comprendre au maître qu'en réalité, son serviteur était tout à fait inutile autrefois, parce qu'il n'était pas encore disciple de Jésus. Mais maintenant, il lui est très utile. Et c'est la raison pour laquelle il le renvoie à son maître, en lui disant « Je te le renvoie une partie de moi-même ». Et un tout petit peu plus loin, au verset 15, il dit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. » Avec beaucoup de finesse, l'apôtre Paul invite ce riche propriétaire à recevoir cet esclave de la même manière qu'il recevrait un apôtre. Et l'on peut imaginer facilement que lorsque l'apôtre Paul vient dans cette église qu'il a fondée, on fait une grande fête, on le reçoit avec dignité. Eh bien, dit l'apôtre Paul, cet esclave qui revient, recevez-le comme moi-même. Bon, s'il a été séparé de toi pendant un moment, sache que c'est pour qu'il puisse te revenir, non pas comme un serviteur simplement, mais comme un frère. Donc tu ne vas pas le recevoir comme un esclave, tu vas le recevoir comme un frère. Et n'oublie pas qu'il m'est tellement cher à moi, dit l'apôtre Paul, que je ne voudrais vraiment pas que tu lui fasses aucun tort. Maintenant, s'il te doit de l'argent, dit Paul, je paierai. Promis, je paierai, je le marque de ma main, c'est signé. Au fait, je crois, dit l'apôtre Paul en s'adressant à Philémon, que tu me dois beaucoup plus que je ne te devrais jamais. Quelle finesse! Mais en écrivant cela, l'apôtre Paul accomplit en réalité le plan de Dieu. L'apôtre Paul ne parle pas ici de faire des barricades, il ne parle pas de faire une révolution, il ne parle pas de faire de la grève ou de monter des syndicats pour défendre ses droits. Il ne change même pas la société avec le mal qu'elle contient. Mais il invite, et les maîtres, et les esclaves, à remplir leurs devoirs mutuels. Et de cette manière, les droits sont respectés, les besoins sont satisfaits, il n'y a plus besoin de faire une révolution, c'est le cœur qui a été révolutionné. Et de cette manière-là, maîtres et esclaves fonctionnent selon le plan de Dieu. Les droits sont sauvés, et les hommes sont en paix. C'est un exemple de cette manière dont Dieu veut changer le cœur de l'homme, pas commencer par l'extérieur. Il ne va pas vouloir changer la société, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La société ne changera que dans la mesure où le cœur de ceux qui la composent seront changés par Jésus-Christ. C'est le secret même de la conversion. J'aimerais prendre un autre exemple dans le livre de Job. Job est connu dans l'Ancien Testament comme étant celui qui a énormément souffert. Son livre, assez long, de plus de 40 chapitres, rapporte en détail la souffrance de cet homme. Mais il y a de la part de Job plusieurs paroles intéressantes que j'aimerais regarder avec vous. Job, dans sa souffrance, dit ceci par exemple dans son livre au chapitre 13 et au verset 3. Il est écrit ceci. « Je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. » Et un petit peu plus loin au verset 13, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut. » Verset 18. « Mais voici, je suis prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. » Job, ici, dans la souffrance, s'adresse à Dieu et il dit « Je veux me défendre, je veux plaider ma cause, je veux montrer à Dieu que ce qui m'arrive est profondément injuste. » Remarquez que dans ce texte, il n'abandonne pas Dieu. Non, pas du tout. Mais lui-même ne s'abandonne pas entre les mains de Dieu non plus. Un peu plus loin, au chapitre 23 du même livre, Job parle encore et dit ceci. Job 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver, dit-il en parlant de Dieu. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Job veut coincer Dieu, se défendre devant Dieu. Job veut que Dieu lui donne ses droits. Et puis vous savez comment dans l'histoire de Job, un jour Dieu va lui parler. C'est un peu plus loin dans le livre de Job, au chapitre 38. Dès les premiers versets, il est écrit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Saint-Airain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Et Dieu va poser à Job une multitude de questions, oh, des questions fort simples sur le monde qu'il voit autour de lui et auxquelles Job n'a aucune réponse à donner. Parce qu'il ne sait pas. Dieu commence en disant, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par un discours sans intelligence? Loin d'expliquer à Job le pourquoi de sa souffrance, il prend simplement le soin de remettre Job à sa place, ou plutôt de remettre Job dans le plan qu'il avait prévu à l'origine. C'est ainsi que quelques chapitres plus loin, Job comprend qu'il n'a pas agi avec droiture. Au chapitre 39, l'Éternel s'adresse encore à lui et lui dit, verset 35, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Job comprend qu'il a parlé d'une manière insensée. Et c'est la raison pour laquelle au chapitre 42, Job passe par une expérience particulière. Chapitre 42, au verset 3, il dit ceci. Il cite ce que Dieu lui avait dit en disant, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job passe par la conversion. Il se repent parce qu'il se rend compte que dans sa contestation, il n'a pas suivi le plan de Dieu. Ce que Dieu lui proposait, c'était son plan à lui. Non pas la revendication de ses droits, mais de continuer à remplir ses devoirs envers Dieu en lui faisant parfaitement confiance, en sachant parfaitement que Dieu, lui, remplirait ses devoirs envers Job de toute manière. Nous avons un mot pour cela dans notre langage. Ça s'appelle la foi. En réalité, ce que Dieu demande à Job, c'est de lui faire confiance et de continuer à agir fidèlement envers lui comme il l'aurait fait dans la prospérité et jouissant de sa santé. Parce qu'il sait, parce qu'il a totalement confiance dans la fidélité de Dieu envers lui en retour. Là encore, la contestation est reprise par Dieu, ce n'est pas sa méthode. Dieu voulait simplement inviter Job à remplir ses devoirs, comme d'habitude. J'aimerais prendre un autre exemple, cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 10, verset 14. Jésus dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. » Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, encore une fois ici, exprime le plan de Dieu. Je donne ma vie. Je suis le bon berger. L'incarnation même, le fait que Jésus lui-même soit venu parmi les hommes et a accepté de relever le défi de se donner en sacrifice pour nous, est la démonstration magistrale du principe que Dieu veut inculquer à l'humanité. Jésus n'est pas venu ici défendre ses droits. Il est venu en réalité accomplir par amour un devoir pour que nous puissions récupérer les droits que nous avons perdus par le péché, pour que nous puissions retrouver la vie que nous avions perdue à cause du péché, de sa séparation d'avec lui. Lorsque Jésus est sur la croix, il ne demande pas que ses droits soient respectés. On le gifle. « Pourquoi m'as-tu frappé? Qu'ai-je fait de mal ?» Et lorsqu'il est cloué sur la croix, il dira encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'est pas la revendication de ses droits. En réalité, Jésus nous propose au contraire de recevoir de sa part la grâce d'avoir nos droits à nouveau grâce à son sacrifice. Et il fait de nous des co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que ce qu'il a acquis, il propose que nous le partagions avec lui. La victoire, finalement. Jésus donne l'exemple lui-même de ne pas avoir été revendiqué les droits de Dieu, mais d'avoir été à la défense des droits de l'homme, lui-même, au prix de sa vie, de son sacrifice. Il les a acquis pour nous et nous invite à en bénéficier et à les partager. En réalité, le plan de Dieu est conçu sur une idée tout à fait différente. L'humanisme a donné au monde la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on attend encore du christianisme qu'il donne par l'exemple l'application de la Déclaration universelle des devoirs de l'homme. Cette Déclaration universelle des devoirs de l'homme, nous la connaissons, c'est la parole de Dieu. Mais le monde attend encore aujourd'hui que le christianisme montre à quel point le chrétien accomplit cette Déclaration des devoirs de l'homme, qui est en fait le chemin, la voie royale que le Seigneur a placée devant nous pour la paix et le bonheur. Dans le livre Jésus-Christ, je lis ce paragraphe. Jésus enseignait que la terre et le ciel sont liés l'un à l'autre et que la connaissance de la vérité divine prépare l'homme à mieux accomplir ses devoirs quotidiens. Chacun a le devoir de chercher à savoir tout ce qu'il peut faire pour son maître qui est mort pour lui. Nous sommes invités à remplir nos devoirs mutuels, de sorte que il n'est plus nécessaire de revendiquer nos droits. Ils sont respectés et nos besoins sont satisfaits. En fait, le vrai chrétien aujourd'hui se reconnaîtra non pas à la force avec laquelle il va revendiquer ses droits, mais à l'application qu'il va mettre à remplir ses devoirs dans son travail, dans sa famille et dans l'Église. Quand je pense à ce plan de Dieu, qui en fait est tout à fait à l'inverse de cet esprit de revendication de l'homme, je repense à ce paragraphe que vous connaissez bien, que je prends dans le livre Éducation et qui exprime parfaitement ce que Dieu attend de nous qui attendons son retour. Écoutez ceci. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'effondrait. Je voudrais être un homme comme ça. Amen.